Europe 1, il est 8h13, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le Premier ministre Jean Castex.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Madame.
Lors de votre entrée en fonction, quand vous avez prononcé votre discours de politique générale il y a 6 mois, quasiment jour pour jour, vous avez dit « Je veux assurer la sécurité des Français ». Par cette phrase, vous entendiez la sécurité sanitaire face à l'épidémie, la sécurité économique et sociale face aux conséquences du confinement, la sécurité des Français face à l'insécurité du quotidien et la menace terroriste. 6 mois plus tard, la circulation du virus est toujours prégnante, la situation économique et sociale est préoccupante malgré le soutien de l'État et les violences minent notre pacte républicain. C'est dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, que vos réponses sont attendues pour expliquer le sens et donner du sens à l'action de l'exécutif. Et pour commencer, cette annonce hier soir du président de la République d'un référendum afin d'inscrire la défense du climat dans la Constitution. Pourquoi ce choix d'un référendum ?
Je crois que c'est l'illustration d'une formidable innovation politique face à laquelle nous nous trouvons. Voyez, quel est le sujet ? Le sujet, c'est un sujet planétaire, la transition écologique. C'est un défi majeur pour tous les pays, pour la France en particulier, qui a fait le choix d'être aux avant-postes dans ce domaine. Souvenez-vous, la signature à Paris de la Convention sur le climat, avec le retour des États-Unis annoncé. C'est une formidable perspective. Bon, nous voulons le faire, vous faisiez allusion à ma déclaration de politique générale, avec notre méthode, c'est-à-dire une écologie ouverte, une écologie qui ne soit pas punitive, une écologie généreuse, une écologie qui transforme, une écologie qui entraîne. Alors, le président de la République, il a recouru, il a fait appel à 150 citoyens.
Oui.
C'est totalement innovant, madame. Ils ont fait des propositions fortes que nous allons écouter, dont nous allons collectivement débattre. Ça, c'est déjà nouveau. Ensuite, la démocratie représentative, le Parlement, va reprendre ses droits. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il va examiner un projet de loi qui sera issu des propositions des citoyens, il va en débattre, il votera, et puis, nous avons souhaité que sur ces sujets majeurs, le président de la République a voulu que le peuple souverain se prononce.
Vous vous en remettez
cette innovation,
aux Français, Monsieur le
Premier ministre. Nouvelles techniques de démocratie sujet majeur donne la parole aux Français dans toute leur composante.
Mais on connaît l'histoire des référendums en France. Il peut se transformer en pour ou contre Emmanuel Macron. Vous assumez ce risque ?
Écoutez, l'écologie, je pense que nos concitoyens en sont parfaitement conscients, est une cause qui nous réunit, qui nous dépasse à toutes et à tous. Je pense que donner la parole au peuple, c'est la quintessence de la démocratie. Et c'est un honneur pour le président de la République que d'y recourir.
Mais expliquez à nos auditeurs, Monsieur le Premier ministre, ce matin, la charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle. N'est-ce pas alors un artifice de communication, comme le dit l'opposition, de la part du président de la République ?
L'opposition, évidemment, s'oppose. L'essentiel, madame, c'est que le peuple ait le dernier mot. Et je crois, pour que ce ne soit pas des artifices de communication, qu'il faut saisir le peuple sur des questions essentielles, sur des questions qui font bouger la société. Et si la transition écologique n'est pas une de ces questions essentielles, je me demande alors ce qui constitue une question essentielle.
Mais vous avez raison, mais ce matin, je me mets à la place d'un auditeur qui se dit, et pourquoi pas un autre sujet ? La laïcité, par exemple, pourquoi pas dans la Constitution ? N'est-ce pas un sujet essentiel, Monsieur le Premier ministre ?
La laïcité est un sujet essentiel. Les principes de laïcité ont déjà, chère madame, et vous le savez, une portée constitutionnelle, et nous allons d'ailleurs, vous le savez aussi, moderniser, adapter au temps présent cette magnifique valeur de laïcité, j'y insiste auprès de vous. Donc, par rapport à votre introduction, madame, vous me permettez de vous dire que nous sommes sur tous les fronts, sur tous les sujets.
Une date, un calendrier pour ce référendum ?
Alors, ça, c'est un peu difficile à dire. Ça nous ramène, chère madame, malheureusement, aux conditions sanitaires. Il faut d'abord que l'Assemblée nationale et le Sénat, puisque nous respecterons scrupuleusement, évidemment, notre Constitution, vote, comment dire, en termes conformes, ce projet. Et ensuite, voilà, la semaine prochaine, je le dis pour vos auditrices et vos auditeurs, nous allons adopter un projet de loi sur la base d'un rapport fait par M. Debré, visant à reporter les élections cantonales et régionales parce qu'elles ne peuvent pas se tenir en raison du contexte sanitaire. Donc, évidemment, c'est ce contexte sanitaire qui déterminera l'échéance du référendum.
Évidemment, avant la fin du quinquennat.
Si possible, bien entendu.
On en vient, monsieur le Premier ministre, à la crise sanitaire. Alors, sur le fondement même de vos arbitrages face à l'épidémie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande étude scientifique rigoureuse française sur les principaux lieux de contamination dans notre pays ?
Alors, d'abord, on dispose d'études scientifiques internationales sur lesquelles
on peut
se référer. Oui, mais enfin, le virus est à peu près le même partout. Ces études sont engagées. Une va être publiée, je crois, cette semaine, sous l'autorité du professeur Fontanet, et qui confirme d'ailleurs des éléments issus des études internationales. Donc, on va disposer d'une étude nationale. Surtout, vous l'avez vu, pour la compléter, nous avons engagé dans 4 métropoles des opérations de tests importantes, massives, dis donc, 2 avant Noël, 2 après Noël, qui ont déjà commencé d'ailleurs, et dont l'un des objectifs est précisément de mieux connaître l'épidémie. Dans quel quartier elle va, quelle catégorie de population touche-t-elle, etc.
Mais monsieur le Premier, sur la grande étude, pourquoi parce que pour faire accepter des mesures, il faut qu'elles soient comprises. Si vous aviez publié cette étude, cette grande étude, ça fait un an que le virus circule.
Mais
pourquoi il n'y a pas cette étude ?
Madame, encore une fois, nous avons des éléments scientifiques. Le virus n'est pas différent aux États-Unis, en Allemagne.
Il y a des modes de vie différents.
Les lieux de contamination sont connus. Et vous verrez d'ailleurs.
Ils sont connus.
Et vous verrez d'ailleurs. Je dispose des pré-éléments de l'étude du professeur Fontanet. Elle confirme la littérature scientifique internationale.
Est-ce qu'elle confirme vos arbitrages ? Est-ce que cette étude confirme vos arbitrages et vos choix pour la fermeture ?
Oui. Oui, madame. Oui, bien sûr.
Donc elle indique que les principaux lieux de contamination
sont les lieux privés.
Ah, d'accord.
On a toujours dit ça, bien entendu. Les restaurants et les cafés, évidemment. C'est-à-dire, en fait, pardonnez-moi, il peut arriver que la science rejoigne le bon sens. C'est-à-dire les lieux où vous ne pouvez pas garder votre masque, les lieux qui sont plutôt clos, couverts, les lieux où vous restez un temps assez long ensemble, des lieux où les interactions sont plus fortes qu'ailleurs, voilà.
Donc
vous avez les salles de sport, vous avez les discothèques.
Ces éléments seront publiés et
absolument
connus du grand public et confirmeront, si je vous entends bien, vos arbitrages et vos décisions.
Absolument.
Ce mardi 15 décembre, les lieux culturels qui doivent garder porte close s'estiment injustement punis et même, le mot est employé, méprisés par le gouvernement. N'y avait-il pas d'autre alternative ?
Alors, il n'y avait pas d'autre alternative, chère madame, sinon je n'aurais pas pris ces décisions, soyez-en assurés. Et si je les prends, que ce soit dit pour ce secteur comme pour tous les autres, c'est parce que nous estimons, notre âme et conscience, qu'elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des Françaises et Français. Il n'y a ni pour le monde culturel, ni pour aucun acteur professionnel, aucun Français, la moindre marque de mépris. Je voudrais vous dire, madame, très honnêtement, que c'est pour moi une grande source de difficulté, parfois de souffrance, de prendre ces mesures. Je connais mes concitoyens. Le monde de la culture, chère madame, le monde de la culture, arrêtons-nous une minute.
C'est l'âme d'un pays.
C'est l'âme d'un pays.
C'est l'identité de la France.
Absolument.
C'est pas un secteur comme un autre.
Absolument. Et d'ailleurs, nous revendiquons, vous le savez, l'exception culturelle. Mais l'exception culturelle, ça n'est pas l'exception sanitaire. Vous savez, le monde de la culture, les acteurs du spectacle vivant, du cinéma, avec Roselyne Bachelot, je veux te rendre un hommage particulier à Lisa Kudrow.
Vous avez besoin de rendre un hommage, elle est fragilisée en ce moment.
Elle n'est pas fragilisée, Roselyne. Elle se bat comme une lionne pour le secteur culturel. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Je les ai déjà reçus à plusieurs reprises. Ils le savent. On a à chaque fois qu'il y a eu un problème. Ils peuvent en témoigner. Pris les mesures pour les accompagner. Et nous allons continuer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Aujourd'hui, ils veulent d'abord... Ils veulent travailler. Tout le monde veut travailler. Et c'est normal. Bon. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas sortis de cette deuxième vague. Attendez, madame, laissez-moi juste aller jusqu'au bout. Nous avions planifié, en fonction de l'évolution de l'épidémie, un retour progressif vers l'ouverture de beaucoup d'établissements et de lieux. L'étape devait avoir lieu aujourd'hui, chère madame, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous m'avez invité, le 15 décembre. Il se trouve en France, comme partout en Europe, que ces résultats ne sont pas encore rendez-vous. Donc on a encore besoin de faire des efforts. Donc on a décalé ces ouvertures. Citez-moi, madame, des pays en Europe où les théâtres, les cinémas, les lieux de culture sont ouverts.
Monsieur le Premier ministre,
des mesures encore plus strictes.
Une question, expliquez à nos auditeurs. Et on entend ce que vous dites sur la culture qui est l'âme d'un pays. Expliquez-nous, où est la logique quand vous voyez des files d'attente et des grands magasins bondés bondés, alors que théâtre, musée, cinéma, qui respectent les protocoles, restent fermés. C'est cela l'injustice qu'ils ressentent.
Non, ce n'est pas, madame.
Qu'ils ressentent, monsieur le Premier ministre.
Oui, c'est une injustice que je peux comprendre. Nous avons rouvert les commerces le 28 novembre, avec des jauges très strictes négociées avec la profession. Et j'ai donné, ne généralisons pas, des instructions extrêmement fermes, vous avez cité les grandes surfaces, pour que le respect de ces jauges soit strictement assuré. Bon, donc, l'étape suivante, on a vu d'ailleurs un petit effet, madame, tous les commerces ont ouvert, vous avez raison, les indicateurs sanitaires s'amélioraient, depuis début décembre, on stagne. Donc on ne peut pas en faire plus, on ne peut pas en faire plus. Par contre, je tiens à vous le dire, on va accompagner ce secteur culturel, on va accompagner ce secteur. D'ores et déjà, j'ai compris, ils ont dit à la ministre, ah, vous savez, on a dû déprogrammer, on avait engagé des dépenses, on avait retenu des artistes, on avait commandé des œuvres, on ne pourra pas ouvrir. On va les indemniser.
Quel montant, monsieur le Premier ministre ?
D'ores et déjà,
cette rallonge de 35 millions d'euros supplémentaires.
Une rallonge de 35 millions sera accordée en plus au ministère de la Culture. Deuxièmement, nous allons préparer avec eux les conditions de l'avenir. On leur a fixé une clause de revoyure le 7 janvier. Ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si j'y insiste bien, les conditions épidémiologiques se stabilisent et s'améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture. Vous savez, là aussi, comparons. Il faut préparer l'avenir avec ce secteur. Ça s'appelle le plan de relance, comme tous les autres
bien
secteurs
sûr,
de l'économie.
On
va mettre 2 milliards d'euros pour la culture. L'Allemagne, pays plus grand que nous, met 1 milliard. Donc, je dis à tous les acteurs du monde de la culture, à toutes et à tous, que je suis parfaitement conscient des mesures difficiles, mais temporaires, que nous leur demandons.
Oui, mais est-ce que c'est pas,
nous allons les aider, non seulement à surmonter cette période, mais à préparer leur avenir.
Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas un temporaire qui dure ? Autre secteur, et ils incarnent aussi la culture et la singularité française. Les restaurants ne croient plus en la perspective d'une réouverture le 20 janvier. Ils attendent ce matin un langage de vérité. Cette date, elle est réaliste ?
Un temporaire qui dure, chère madame, mais ça s'appelle l'épidémie. Est-ce que, je vous pose une question, pardonnez-moi, on ne doit pas répondre à une question par une question. Sommes-nous le seul pays concerné par ces mesures ?
Mais
sommes-nous le seul pays, où le virus continue de circuler ?
Bien
sûr que
non.
On a même des performances, je le revendique devant vous, plutôt meilleures que les autres pays. Meilleures que l'Allemagne, désormais. Bon, alors s'agissant des restaurateurs, là aussi, je vous ferai la même réponse que pour le secteur de la culture. C'est un crève-cœur pour moi, madame, de fermer les restaurants.
Monsieur,
c'est un crève-cœur, mais c'est nécessaire.
Hier, votre ministre de l'économie affirme qu'il ne pouvait pas.
Et l'étude du professeur Fontanet le confirmera. Donc, est-ce qu'on peut leur garantir aujourd'hui qu'on rouvrira le 20 janvier ? La réponse est non.
Donc là encore, vous allez prolonger les aides.
Nous verrons, madame. Ça va dépendre de nous tous. Ça va dépendre de la façon dont nous aurons passé cette période de fête, dont j'ai déjà dit qu'elle pourrait être propice à une circulation accélérée du virus si nous n'étions pas collectivement responsables.
Venons-en, monsieur le Premier ministre, puisqu'un couvre-feu entre en vigueur. Mais Noël est sanctuarisé. Est-ce que vous appelez clairement les Français à se faire tester avant de se retrouver en famille ?
Alors, nous avons demandé, sur la préparation de cette échéance, un guide de recommandation au Conseil scientifique. Il est sorti hier. Bon, que dit le Conseil scientifique ? Le Conseil scientifique dit quelque chose, je pense, de très raisonnable. Il dit d'abord, si vous le pouvez, d'ailleurs c'est ce qui se pratique dans certains pays étrangers, dans beaucoup, auto-confinez-vous 8 jours avant Noël. Si vous le pouvez, ce n'est pas possible.
Mais vous appuyez cette recommandation ?
Bien entendu, à chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables. Le Conseil scientifique, je veux dire qu'on l'appuie, a même dit, si vous pouvez ne pas amener vos enfants à l'école jeudi et vendredi, c'est la période de 8 jours, vous le faites.
Mais monsieur le Premier ministre, vous êtes le chantre, pardonnez-moi, vous voulez être le chantre du bon sens. Vous imaginez une telle recommandation ? À quelques jours, on imagine l'organisation des parents,
madame,
des entreprises.
Madame, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Du bon sens, vous avez parfaitement raison. On dit des recommandations. Parce que dit sur les tests ? Pour répondre à ça, il dit surtout, les tests, ils sont utiles si vous êtes symptomatique. Sinon, ce n'est pas un totem, le test. Vous pouvez vous faire tester le vendredi, mais être contagieux, être positif le lundi, il faudrait le faire presque tous les deux jours. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable, d'autant que nous n'aurions pas la capacité de le faire. Donc, le conseil scientifique dit, faites-vous tester, oui, avant les fêtes, si vous avez des symptômes, et si, ajoute-t-il, vous avez été, dans la période précédant le réveillon, en contact avec des personnes nombreuses, certaines présentant des risques, etc. Et si vous allez passer Noël ou d'autres événements avec des personnes vulnérables.
Certains vous font le reproche, monsieur le Premier ministre, d'un paternalisme autoritaire, d'avoir parfois tenu un discours qui tend à infantiliser les Français en entrant dans nos foyers. Est-ce que vous le regrettez ? Vous réfléchissez ?
Oui, parce que je suis partagé, pour vous dire la vérité à cette réponse. C'est pas ma tendance naturelle, et je crois que c'est celle de personne, d'entrer dans les foyers des gens.
Vous auriez imaginé, Jean Castex, le faire ?
Simplement, écoutez, je suis Premier ministre de mon pays, à un moment où celui-ci est confronté à une crise inédite et très grave. Donc je dois prendre mes responsabilités. Mes responsabilités, ça consiste, c'est pas infantiliser, excusez-moi, mais si vous m'avez suivi, vous parlez de 6 mois de fonction, dès le premier jour, j'ai, je crois, tenu un discours de responsabilisation. Cette crise sanitaire est un défi collectif pour nous. Le gouvernement doit prendre les bonnes décisions, évidemment. Mais chacune et chacun dispose d'une part pour lutter contre cette épidémie.
Mais vous, monsieur le Premier ministre, quel Premier ministre êtes-vous ? Comment vous imaginez votre rôle ? Bouclier ou bouc émissaire ?
J'essaie surtout de protéger mes concitoyens, de prendre les bonnes décisions. Bouc émissaire, si vous cherchez à me faire dire qu'effectivement, fermer un théâtre, fermer un restaurant rend impopulaire, vous avez sûrement raison.
Et
la question,
ce
n'est pas celle-là. La question, c'est est-ce que c'est mon devoir de le faire ? Vous savez, on jugera le match à l'arrivée. Bon, pour l'instant, je suis dans le feu de l'action, sous l'autorité du président de la République. J'essaie d'associer au maximum les forces vives. J'essaie aussi de rénover les relations avec le Parlement. Nous tiendrons un débat demain et après-demain sur ces sujets. Mais je dois prendre des responsabilités pour protéger les Français. Je reste conforme, madame, à la déclaration de politique générale par laquelle vous avez commencé cette interview.
Je trouve que ça structure bien, évidemment, votre action. Vous dites les choses difficiles, monsieur le Premier ministre, mais combien de victimes économiques ? Combien de suicides actuels ou à venir ? Combien de dépressions ? Combien de malades hors Covid non soignés ? Combien de sacrifiés dans la jeune génération ? Vous assumez l'état dans lequel va se trouver la France ?
Bien sûr, mais tout ça, c'est justement, ce sont les caractéristiques de cette crise sanitaire qui devient une crise économique, qui devient une crise sociale. Et je veux dire, excusez-moi de vous le dire, mais c'est quoi l'honneur de notre pays et le rôle du Premier ministre qui le dirige, du Président de la République ? C'est encore une fois de limiter au maximum l'impact sanitaire. Je crois que si nous nous comparons avec les autres pays, je le dis, aux Françaises, aux Français, nous n'avons pas à rougir. Et c'est aussi, vous l'avez très bien dit, de limiter l'impact économique. On prend toutes les mesures là aussi, si vous comparez, madame, le soutien au secteur économique que nous faisons sont parmi les plus ambitieux. La Banque de France vient de rendre une étude qui dit que c'est en France que le pouvoir d'achat des ménages aura été le mieux préservé,
monsieur
malgré
ministre,
la croissance
de la pauvreté. Je vous parle de psychologie et même de psychiatrie. C'est
absolument
la question. Est-ce qu'à un moment ou un autre, avec le président de la République, vous vous êtes posé la question et mis en balance justement ces deux bilans, un
madame,
certain pourcentage de morts du Covid et une telle situation ?
D'abord, je le rappelle, et là aussi c'est à l'honneur de la France, nous avons fait le choix à la rentrée dernière de rouvrir toutes nos écoles. La fermeture des écoles, en France comme ailleurs, lors du premier confinement, avait produit et aurait continué de produire des résultats catastrophiques. On a assumé le choix de le faire. Et globalement, je ne dis pas qu'il y ait quelques problèmes ici ou là, ça tient le choc. Deuxièmement, je voudrais vous parler des étudiants, pour lesquels on a dû maintenir le confinement. Là, il y a des sources de danger. La ministre Frédérique Vidal m'alerte là-dessus, les présidents d'université, les acteurs. On a pris des dispositions. On va essayer de faire rentrer, comme on dit, en présentiel, dès janvier, les étudiants les plus fragiles, les plus éloignés. J'ai augmenté, chère madame, très concrètement, les vacations de psychologues, d'assistantes sociales. On a donné une somme aux étudiants un peu plus chevronnés pour s'occuper des étudiants en difficulté ou des étudiants décrocheurs. Tout ça, nous le faisons. Olivier Véran, Autre ministre qui se bat sur tous les fronts.
Qui se bat et qui freine parfois sur certaines décisions, monsieur le Premier ministre.
Qui freine quoi ?
Sur l'ouverture des musées, des théâtres. Non, mais en tenant compte de la situation épidémique.
La seule chose que freine efficacement, monsieur Véran, c'est la progression de l'épidémie. Bon, donc je vous disais, monsieur Véran travaille avec moi sur l'accroissement des dispositifs de santé mentale, pour en revenir à votre question. Donc, bien entendu, nous sommes parfaitement conscients, sensibles et à l'action sur toutes les conséquences psychologiques, vous avez même dit psychiatriques de cette crise. Cette crise, elle est effectivement dévastatrice et c'est pourquoi nous sommes mobilisés matin, midi et soir.
Bon, et vous dites que vous vous occupez évidemment de la situation et que vous anticipez, monsieur le Premier ministre. D'où ma question, qu'est-ce qui nous garantit qu'après, il faut bien le dire, le fiasco des masques et des tests, les vaccins ne seront pas le troisième fiasco ?
Mais ça, ce sont des formules, madame. Le fiasco des tests, vous avez dit, je peux répondre, je suis Premier ministre. La France est le pays qui a le plus testé d'Europe. Certes, il y a eu des moments, et ça peut revenir, où il y a eu des listes d'attente qui sont tout à fait regrettables. Vous avez raison. Mais gros, au total, j'insiste, nous devons nous améliorer sur les tests. Ça, je vous le dis tout de suite, et ça va être un des axes de la stratégie. Les vaccins. Les vaccins, nous nous préparons. J'ai expliqué déjà aux Françaises et aux Français. Nous avons une stratégie. Ces vaccins ont été achetés à l'initiative de la France au niveau européen pour faire diminuer les prix, pour augmenter nos chances d'obtenir toutes les doses qui sont nécessaires. Et nous allons débuter. Et nous allons débuter dès que les autorités sanitaires compétentes se seront prononcées pour diffuser les vaccins correspondants au début de l'année 2021. Nous avons une autorité qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, autorité scientifique indépendante, qui nous dira les priorités des publics à vacciner. Le gouvernement s'occupe de tous les aspects logistiques. Et surtout, chère madame, et surtout, nous devons, c'est ma préoccupation forte au moment où nous nous parlons, veiller à faire comprendre que toutes les précautions sont prises dans la plus grande transparence. C'est le maître mot.
Mais, monsieur le Premier ministre,
pour que les Français puissent se faire vacciner en toute sécurité.
Est-ce que vous pouvez affirmer ce matin que tout est prêt pour que la France ne connaisse ni retard, ni manque en matière de doses de vaccins ? Est-ce que vous pouvez tenir ce matin, j'allais dire, cette promesse et l'affirmer haut et fort ?
Je peux le dire à votre micro, chère madame. Nous dépendons évidemment des approvisionnements en vaccins qu'achète l'Europe, mais si tout se déroule comme nous l'avons contractuellement prévu, nous nous mettons en état de ne manquer ni de doses vaccinales, ni de logistique pour assurer leur diffusion selon les priorités fixées par la Haute Autorité en Santé.
Le retard du laboratoire Sanofi ne va pas venir peser sur notre situation et tout cela.
Ah, madame, nous avons au niveau européen passé des commandes avec d'autres laboratoires qui nous permettent de vacciner largement, de manière suffisante, la population française.
Monsieur le Premier ministre, on a également envie de vous entendre ce matin sur un domaine éminemment régalien. Il y a la sécurité, et j'ai dit tout à l'heure ce que vous avez prononcé lors de votre discours de politique générale. C'est fort de dire « je veux assurer la sécurité des Français ». Les paroles du président de la République, reprenant dans une réponse certes l'expression « violence policière », ça fait des dégâts au sein de la police ?
La sécurité, chère madame, est et demeure la priorité du président de la République et du gouvernement. Les policiers, puisque vous parlez d'eux, auxquels je veux rendre hommage, sont les premières victimes des violences, de par la profession qu'ils exercent. Toutes les Françaises et tous les Français le savent. Et donc le devoir du gouvernement de la République est d'assurer la protection et les moyens de la police de la République. Ce qui me rend parfaitement à l'aise, mais enfin, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, pour dire si certains membres des forces de sécurité intérieure recourent à la violence dans un cadre violant la loi républicaine et leur code de déontologie, évidemment, nous serons inflexibles face à ces comportements. Et nous le sommes. Mais de là, comme certains, parce que c'est le sous-entendu de tout ça, soyons clairs, à chercher à jeter, comme on dit, l'opprobre sur l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, alors là, je dis, c'est une position totalement scandaleuse et que je récuse.
C'est clair.
Et nous allons, mais non, mais allons jusqu'au bout. Et nous allons, il va y avoir le Beauvau de la sécurité annoncé par le
Premier ministre. Vous savez ce que vous disent certains, monsieur le Premier ministre, encore un comité Théodule, alors qu'on sait déjà comment agir.
Madame, on ne peut pas nous dire, voilà, il y a un sujet, comment lutter contre les violences. Vous dites, ici ou là, il y a des violences policières, et dire, bah, on ne fait rien. Non, on va. C'est le rôle du gouvernement. Très calmement, mettre tous les sujets sur la table et trouver des solutions. Mais, que ce soit très clair, le cap, l'objectif, il est simple, faire reculer la violence dans la société. Que ceux qui sont hors la loi soient poursuivis et sanctionnés. C'est très simple, c'est compliqué, mais l'objectif est simple. Et ce n'est pas que des paroles, oui, vous êtes Premier ministre, ici, moi. Je rappelle quand même qu'il y a un texte, il y a un texte en discussion au Parlement sur les polices municipales, sur la sécurité dite globale. Ouais, c'est en cours. Bon. Nous venons de déposer un texte sur les principes républicains. Pendant ce quinquennat, nous aurons augmenté de 10 000 les effectifs des forces de sécurité intérieure, avec un ministre de l'Intérieur extrêmement déterminé. Ma plus-value, si vous me permettez, dans tout ça, c'est ce que ressentent beaucoup de nos concitoyens. Si l'action de la police n'est pas suivie par la justice...
C'est ce que j'allais vous demander. La justice ne suit pas, monsieur le Premier ministre, quand les peines ne sont pas appliquées...
Quand la justice ne suit pas, madame, c'est pas arrive. Parce que la justice est incompétente, c'est parce que, comme je l'ai expliqué pendant trop d'années, nous avons privé la justice des moyens d'agir. Regardez là aussi,
est-ce que ce n'est pas par idéologie, parfois?
Nous avons donc décidé, ça c'est des faits, le budget de la Nation pour 2021 va être voté en cette fin d'année et il prévoit une augmentation de 8% du budget de la justice. Ça ne s'était pas produit depuis des décennies et je vous l'annonce à ce micro, nous continuerons pour 2022.
Monsieur
donc
le Premier
nous agissons, madame,
oui. Vous
calmement,
avez cité...
calmement mais fermement sur tous les fronts, faire reculer la violence, ressouder le pacte social, parce que il faut bien faire comprendre que notre politique, elle est globale, madame. Pardonnez-moi de vous le dire. Bien sûr, je revendique devant vous la fermeté et l'autorité de l'État. Je les revendique, je les assume et je les mets en œuvre. Mais la République, c'est aussi une promesse.
Mais c'est important. Alors attendez, monsieur le Premier, c'est très important ce que vous dites. Vous dites, la République est une promesse. Sur le projet de loi confortant les principes républicains, la députée Aurore Berger travaille sur un amendement proposant l'interdiction du voile pour les fillettes. Pourquoi vous êtes opposé à un tel amendement?
Parce que je pense que ce n'est pas l'objectif de ce texte, de rouvrir le débat sur le voile. Les députés sont parfaitement libres de déposer tous les amendements. Nous, notre sujet dans ce texte de loi, c'est d'abord de lutter contre le séparatisme, contre l'islamisme radical. Donc toutes les manifestations
permettez-moi
de l'islamisme radical
doivent être combattues. Une remarque de sémantique, et je le ferai très rarement, monsieur le Premier ministre, mais l'islamisme est forcément radical.
Ah non, enfin...
L'islamisme est une idéologie, c'est forcément radical.
L'islamisme politique est radical. Voilà. C'est parce que pourquoi j'insiste auprès de vous? Parce que je ne veux pas, et c'est ce que cherchent à faire nos adversaires, qu'il y ait un amalgame entre l'islam et l'islamisme radical. C'est pour ça que je tiens, madame, aux deux mots, à l'islamisme radical, à l'islamisme politique, parce que je le distingue complètement de la religion qu'est l'islam, et il y a d'ailleurs beaucoup de musulmans de France qui pourront pratiquer librement leur religion grâce à la loi.
Mais monsieur le Premier ministre, sur cet amendement, la question n'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est pour certains une forme de violence et de maltraitance pour des petites filles. C'est pour ça que je vous demande véritablement votre avis, au-delà de l'amendement, sur le sujet.
Ah ben sur le sujet, évidemment, chère madame, évidemment, et nous discuterons avec la députée des voies et moyens de faire cesser cela. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous devons être clairs sur les objectifs poursuivis. Et l'objectif poursuivi, c'est de faire cesser partout sur le territoire national des pratiques qui visent à fracturer la communauté nationale, qui visent à recourir à la violence, au lavage de cerveau et finalement, au bout du bout, à la haine, contre la République.
Deux questions pour conclure, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Emmanuel Macron de se représenter en 2022 ?
Il a dit lui-même de prendre des textes difficiles, mais le président de la République, je le connais bien désormais, est un homme courageux, qui sait prendre les décisions qu'il faut. L'heure n'est peut-être pas, si vous me le permettez, de se prononcer sur qui sera candidat ou pas en 2022. Restons au temps présent, et moi je trouve que c'est un très bon président de la République dans les temps présents et peut-être dans les temps de demain.
Bon, voilà la réponse. On va conclure puisque je vois que Nicolas Canteloup nous a rejoint dans ce studio, Monsieur le Premier ministre. Il y a une tradition, vous le savez évidemment, au bout de 6 mois d'exercice à Matignon, c'est de planter un arbre dans les jardins. Alors Édouard Philippe, je crois qu'il avait choisi un pommier normand, et vous, c'est un frêne.
Oui, c'est un frêne.
Pourquoi cet arbre ? De quoi il est le symbole à vos yeux ?
C'est un frêne parce que c'est un arbre qui prospère dans mes Pyrénées orientales dans le village qui est si cher
il
à mon cœur où j'ai rencontré ma femme. C'est un arbre vigoureux qui tient bien au feu. Vous voyez, peut être utile par les temps qui courent. Voilà, c'est un bel arbre, le frêne. C'est un arbre vigoureux.
N'est-ce pas ? Merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel. Et en ce jour très particulier, évidemment, du 15 décembre, avec tous les changements à venir pour les Français. Merci à vous.
Merci.